Dans le collimateur. Le balado de veille pédagogique et technopédagogique de l'Université du Québec à Montréal.
Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM depuis un peu plus de 6 mois.
Yves Mon, chargé de projet pédago-numérique pour le Carrefour.
Jean-Michel Lapointe, chargé de projet pédago-numérique au Carrefour.
Oui, merci de votre générosité de nous accueillir. C'est toujours intéressant d'avoir la vision des gens qui sont à la tête de notre organisation. Puis, merci.
Ben, écoutez, c'est un immense plaisir. Merci de me recevoir.
J'ai pris quelques notes, mais habituellement, je ne fais pas ça. Mais là, c'est... ce que j'ai vu, c'est que vous étiez un passionné d'écriture.
Oui.
Votre lettre du matin de décembre où vous parliez du parc enneigé, on voyait que vous aviez le goût d'écrire. Vous avez une plume inspirante.
Oui, et facile. Non, j'écris très vite. Donc mes lettres du jeudi matin, elles sont écrites le jeudi matin.
Par vous?
Par moi. Par moi. Et j'ai un plaisir fou à le faire. Donc c'est jamais un effort. Au contraire, c'est quelque chose de... c'est un plaisir.
Par le fait même, vient avec ça le plaisir de la lecture. Alors, inspiré de Jean-Michel, quel type de lecteur êtes-vous?
Ah mon Dieu, je suis un lecteur qui a pas de temps, ou très peu de temps pour lire. Et donc, je lis de façon irrégulière, mais je vais toujours jusqu'au bout de mes livres. Et donc parfois un livre peut prendre un mois, 2 mois avant d'être lu. Mais évidemment au quotidien je lis constamment, je lis des rapports, je lis des tas de choses. Mais la vraie lecture littéraire c'est un plaisir trop rare, je pense.
Donc vous êtes un lecteur frustré, dont le désir est frustré, mais ça peut l'alimenter aussi.
Peut-être.
Mais ce qui est intéressant justement ici, c'est qu'on vous a demandé de nous partager 8 ouvrages qui vous ont inspiré ou qui vous ont accompagné dans votre parcours de vie. Je vous invite à en choisir un au hasard ou selon votre volonté, nous expliquer, puisqu'on fait une balado, de nous expliquer quel est ce livre, le contexte. Alors, je vous laisse choisir, commencer par...
Je commencerai peut-être par les origines de mon amour de l'écriture, c'est Verlaine, un poète que j'ai découvert très très jeune et j'aimais beaucoup la poésie à cet âge et j'écrivais. Je soumettais mes poèmes à des concours, j'étais un étudiant élève à cette époque, élève du secondaire en Belgique. Et c'est un poète qui m'a beaucoup marqué.
Vous écrivez des poèmes?
J'écris moins qu'avant, mais oui, j'ai beaucoup de recueils de poésie.
Non publiés?
Certains, non publiés tels quels, mais les poèmes ont été publiés à différents endroits, notamment dans un journal liégeois qui s'appelait Le Chalut, qui était dirigé par une poétesse belge, Maggie Thierry Titeux, et qui régulièrement publiait un de mes poèmes dans son journal.
On va avoir droit à nos poèmes ici, à l'UQAM, peut-être?
Peut-être. Vous savez qu'on organise une nuit de la poésie cette année, oui. Le 2 mars. Donc c'est peut-être une annonce officielle. Le 2 mars, jour de la nuit blanche, nous allons faire partie de la programmation de la nuit blanche et avoir une nuit de la poésie de l'UQAM à la Place des Arts.
Wow, fantastique. On sera au rendez-vous. Est-ce qu'il y a un poème de Verlaine que vous retenez, qui vous parle particulièrement?
Je me suis dit que vous alliez me poser cette question. j'en ai apporté un avec moi,
ah oui?
Qui est un poème qu'il a écrit alors qu'il était en prison en Belgique d'ailleurs, à Charleroi, et qui est tout simple, vraiment très très court, et qui... Vous voulez que je le lise?
Bien sûr.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte, un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille, cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà pleurant sans cesse, dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse?
Qu'est-ce que vous avez fait de votre jeunesse, Monsieur Pallage?
J'ai fait beaucoup de choses et j'ai surtout... j'ai jamais dit non. Et autrement dit, je me suis toujours libéré des regrets potentiels. Quand il y avait une occasion de faire quelque chose d'inhabituel auquel certaines personnes auraient pu dire non, moi j'ai dit oui. Je vous donne un exemple, j'avais 17 ans, j'avais 19 ans, et là j'ai écrit un texte qui s'avérait être un petit scénario de publicité très 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 petit pour du café. Et j'ai gagné un concours pour aller 15 jours en Colombie, à l'époque où les gens n'aimaient pas d'aller en Colombie. On est dans les années 80, un pays dangereux, le narcotrafic. Ça a été un voyage transformateur dont je ne regrette pas un instant.
Vous avez donc pris le temps de voyager un peu partout à travers le monde. Vous avez fait l'Amérique latine, vous avez fait, bien sûr, l'Europe, là, toute l'Europe, tout est à proximité. Mais parmi les pays qui vous ont marqué, ça serait quoi?
Vous savez, les États-Unis m'ont beaucoup marqué. J'y ai vécu pendant mes études. C'est un pays de contraste. C'est un pays qu'on aime et qu'on déteste, mais auquel je dois beaucoup. J'y ai rencontré des gens absolument formidables. Et c'était d'ailleurs, quand j'étais étudiant en Belgique, j'avais ce rêve américain, ce rêve de partir vers l'Ouest. J'ai obtenu une bourse pour le faire. Ce que je ne savais pas, c'est que mon rêve, finalement, mon vrai rêve, c'était au Nord-Ouest. C'était le Québec. Et là, je l'ai découvert plus tard.
Au Nord-Est, vous voulez dire?
Par rapport à la Belgique.
Ah oui, d'accord. Moi, j'ai voté par rapport à l'Amérique, oui, bien sûr. Oui.
Oui, non, le fait de vivre l'Amérique en français, oui. Ça, c'était pour moi inespéré.
Donc, un doctorat en Pennsylvanie?
Oui.
Pourquoi? Donc, c'est peut-être la pensée de Simon qui vous a amené là?
Herbert Simon, c'est un de ces auteurs que j'avais lus quand j'étais étudiant en Belgique, quelqu'un qui avait un peu révolutionné la gestion et aussi l'économie. Il s'avère qu'à Pittsburgh, où j'étudiais pour mon doctorat à Carnegie Mellon, Simon était encore professeur quand je suis arrivé. Et c'est un de ces professeurs de Carnegie qui avait obtenu un prix Nobel d'économie. Je peux vous raconter une petite histoire par rapport à Simon. C'est que j'habitais dans un quartier qui s'appelait Squirrel Hill à Pittsburgh. Et tous les matins, je me rendais à l'université à pied parce que je n'étais pas très riche. Hein. Et pour gagner du temps, je traversais un terrain de golf, ce que je ne vous recommande pas de faire. Et il y avait cette personne, toujours bien habillée, costume trois pièces, qui traversait également le terrain de golf et que je saluais. Avec le temps, on a appris à s'apprivoiser. C'était Herbert Simon. Wow. Qui se rendait lui-même à l'université. Un personnage haut en couleur, un vrai philosophe. Les économistes ne sont pas tous des philosophes, mais il y en a qui le sont, et lui s'en était un. Il est aussi un des pères de l'intelligence artificielle.
Un prix Turing, donc, oui.
Oui, quand il a eu son prix Nobel d'économie, il a plus ou moins claqué la porte du département d'économie pour rejoindre celui de la psychologie et celui de l'informatique. Donc, il avait une double affiliation à Carnegie. Et là, il réfléchissait à comment les individus parviennent à prendre des décisions. Donc, c'est vraiment comment la pensée nous amène à une décision. Et c'est vraiment les premiers pas vers l'intelligence artificielle.
Une influence majeure. Est-ce que c'est à cause de cette rencontre que vous avez enseigné l'économie ici à l'UQAM, à l'école?
C'est pas à cause de cette rencontre, mais c'est une rencontre vraiment importante dans ma vie. Non, je me dirigeais vers l'économie, clairement, même si j'avais étudié en gestion par le passé. Et à Carnegie, j'ai pris le virage sciences économiques dès ma première année. Et j'ai travaillé avec des gens qui m'ont amené à réfléchir plus loin et qui clairement ont fait en sorte que j'ai eu la piqûre à vie de cette carrière-là.
Économiste ou professeur?
Les deux.
Les deux?
Oui, parce qu'en fait, je partais aux États-Unis et faire un doctorat en économie avec cette idée que je travaillerais peut-être pour une institution internationale comme le Fonds monétaire ou la Banque mondiale. L'amour de l'enseignement, c'est à Carnegie que je l'ai découvert.
Jean-Michel, tu me rappelais qu'il y avait un prix en enseignement?
Monsieur Pallage a remporté un, sinon plusieurs prix en enseignement. Au-delà des prix eux-mêmes, c'est quoi pour vous l'enseignement dans votre parcours, l'importance que ça avait et donc le rôle que vous donnez à la pédagogie dans qui vous êtes?
C'est vraiment un partage. Dans un cours, je donne et je reçois tout autant. Il y a un véritable échange entre les étudiantes, les étudiants et l'enseignant qui est très nord-américain. Cet échange. En Europe, j'avais connu les grands auditoires, les grands auditoriums avec 800 personnes et un professeur à l'avant qui donne un enseignement unidirectionnel. Le côté interactif de l'enseignement, c'est très nord-américain. Et l'UQAM le pratique de façon exemplaire avec des petits groupes. C'est précieux, les petits groupes. Je pense que l'apprentissage se fait en classe autant que par l'étude ensuite. Et la version européenne est totalement différente. En Europe, j'allais même pas à mes cours parce que ce n'était pas utile. J'étudiais pour mes examens et je réussissais très bien. Ici, ce n'est pas vrai. Ici, le prof nous donne énormément pendant une séance. Puis je trouve ça formidable.
Mais pour remporter un prix d'enseignement, c'est quoi la méthode Pallage?
Il faudrait le demander aux étudiants, mais j'aime le dialogue dans un cours. Donc, je m'assure que les étudiants vont participer.
L'approche active.
Oui.
Il y a cette distance qui existe en Europe qui n'existe pas ici. On le voit aussi lors des remises de prix, les étudiants qui viennent, ils mentionnent beaucoup cette proximité avec les enseignants à l'UQAM, on est une université de terrain. Alors, en étant une université de terrain, on est campé, vous allez voir mon idée, on est campé dans le Quartier Latin. Quartier Latin évoque aussi les premières lectures des Belles-Sœurs de Michel Tremblay en 68, naissance de l'UQAM. Alors, vous nous avez retenu comme ouvrage les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Alors, qu'est-ce qui vous allume par rapport à cet ouvrage?
Ben, c'est le premier livre que j'ai lu en arrivant à Montréal. Collègue du département des sciences économiques en 95, on est en juin 95, débarque dans mon bureau, qui s'appelle Clément Lemelin, mon collègue, débarque dans mon bureau et me dit, il faut que tu lises ça très vite. Bon, je l'ai lu évidemment la nuit en question et le lendemain matin, je suis allé le voir. C'était décoiffant, j'avais des cheveux à l'époque. C'est Bon, je dois beaucoup à Clément Lemelin, qui s'est mis en tête qu'il fallait qu'il m'intègre à la société québécoise, et puis il l'a fait en m'apportant d'abord les belles sœurs. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est une pièce que j'ai vue au moins deux fois depuis que je suis au Québec. Et donc c'est mon arrivée 95. Vous voyez qu'il s'est passé beaucoup d'années, qu'il y a eu une interruption vraiment à cette vie québécoise. C'est de 2018 à fin 2022 où j'étais de retour en Europe un peu malgré moi, comme recteur d'une université européenne, l'université du Luxembourg. Mm-hmm. Mais nous sommes de retour et les enfants n'ont d'ailleurs jamais quitté le Québec.
Oui, alors donc, quitter un adolescent de 17 ans, ça prend du courage de laisser ses trois enfants derrière. Vous étiez avec la mère de vos enfants à cette époque?
En fait, c'est une famille reconstituée.
Reconstituée, oui, d'accord.
Mon épouse et moi, on a trois enfants, mais on ne les a pas fait ensemble.
Ah, d'accord. Et comment ça s'est passé, cette période, à partir de 2018, qui vous a éloigné de la famille, de votre famille implantée au Québec, d'une certaine façon?
Le plan était magnifique et les enfants étaient très enthousiastes. En fait, on voulait partir tous ensemble. Ouais. On a fait un conseil de famille. Ils nous ont dit, vous ne pouvez absolument pas laisser ça passer. Mais nous, on ne viendra pas. Mm-hmm. Vous imaginez 17, 18 ans et 24 ans, je crois, pour l'aîné, si je me souviens bien, étudier à Montréal sans les parents, garder la maison.
Oui, c'est des grosses responsabilités.
C'est des belles responsabilités, mais ils avaient vraiment l'enthousiasme de le vivre. Et ça s'est très, très bien passé les premières années. Un peu plus difficilement les années suivantes, parce que la COVID est arrivée. Mm-hmm. Je pense que jamais personne dans la famille n'aurait prévu qu'une telle chose pouvait se produire. Mm-hmm. Et donc, les voyages ont été extrêmement difficiles dans cette période-là. Mm-hmm. Oui. Les distances entre l'Europe et le Québec ont grandi, ce qui nous a amené ma blonde et moi à décider que un mandat c'était bien, mais que deux c'était trop, et qu'on rentrerait donc à la fin du mandat qui s'est terminé fin 2022.
Okay. Sans savoir ce qui vous attendait de nouveau au Québec à ce moment-là.
Oui, j'avais pour la première fois de ma vie une période sans emploi. Ce qui, je vous le dirais, m'a vraiment aidé, m'a permis de faire une forme de ressourcement, mm-hmm. qui était très, très, très utile.
Je vous amène vers le livre sur le deuil. Peut-être que vous pouvez le présenter, parce que c'était peut-être un peu plus personnel et probablement en lien avec votre première épouse, je suppose.
Mais c'est ça. J'ai parlé de famille reconstituée, mm-hmm. pour une bonne raison, c'est que Lynn et moi sommes tous les deux veufs. Nous avons tous les deux perdu nos conjoints et conjointes du cancer à un âge beaucoup trop jeune. Sophie Lapierre, qui était la maman de mon fils Julien, a eu un diagnostic de cancer à 35 ans, alors qu'elle était enceinte de Julien. Cancer sauvage, cancer du sein inflammatoire avec des métastases déjà au moment du diagnostic. On lui donnait un an. En fait, elle a vécu avec nous 4 ans, qui sont des années magnifiques. Mais c'est certain que après la mort, le deuil est quelque chose qui est difficile à apprivoiser. Autant pour un adulte que pour un enfant. Julien, à ce moment-là, avait 4 ans. Puis, il s'avère que le deuil d'un adulte est très différent de celui d'un enfant. Ce livre, donc, qui s'appelle Healing Children's Grief, qui a été écrit par une professeure de psychologie à l'Université de Chicago, et qui a suivi des enfants depuis la mort d'un parent, quel que soit leur âge, jusqu'à l'âge adulte. Et ce qui est intéressant du deuil d'un enfant, c'est que, plus ou moins, ils réagissent tous de la même façon selon l'âge auquel survient la mort. Mais la réaction peut être très différente si la mort survient quand les enfants sont adolescents ou même savent écrire. Dans le cas d'un enfant qui n'a pas encore l'écriture à portée de main, qui est dans ses premières années, comme Julien l'était, les réactions sont parfois très inattendues. Et ce livre m'a immensément aidé parce qu'il m'a permis de réagir, de ne pas avoir trop de surprises par rapport aux réactions des enfants. Le deuil à cet âge-là est très, il vient par passade, donc pendant une semaine, la vie peut avoir l'air tout à fait normale et puis soudainement un éclat qui arrive et qui est un éclat qui provient du deuil. Mais il faut le savoir.
C'est intéressant parce que je voyais que vous enseignez, parmi vos spécialités était aussi le travail des enfants. Donc les enfants, ça a toujours été quelque chose d'une préoccupation pour vous.
Oui. J'ai beaucoup travaillé sur des questions qui avaient trait aux pays en voie de développement et j'ai vu souvent des enfants travailler. Je me souviens au Cameroun d'avoir vu des enfants qui cassaient des pierres le long des routes, pieds nus, qui étaient là le matin et qui étaient là le soir quand je repassais dans l'autre sens. C'est effrayant. Et une partie de mon travail a été d'essayer de comprendre comment on pouvait éliminer le travail des enfants sans nécessairement nuire aux enfants eux-mêmes. Parce que quand on supprime le travail, quand on le rend illégal, c'est un revenu que les parents n'ont pas. Mmh. Et c'est un revenu dont l'enfant ne bénéficie pas non plus. Donc il faut trouver des moyens qui soient alternatifs. Et il y en a. Je vais vous en donner un tout simple, mais qui fonctionne dans bien des pays. Les fameux petits déjeuners qu'on offre dans les écoles, on le fait à Montréal. Mais si vous faites ça dans un pays comme le Cameroun, pour le parent, ça veut dire que l'enfant va être nourri. Ça allège le fardeau familial. Vous ajoutez un repas le midi et peut-être même un repas avant que les enfants ne quittent l'école. Et là, vous venez d'éliminer le travail des enfants pour beaucoup d'entre eux. Et vous venez de gagner des enfants à l'école. Et vous avez fait d'une pierre deux coups. Et vous savez, quand on va à l'école, on a l'espoir de sortir de son état. Hein. Et y a une mobilité sociale qui est très, très importante pour un pays en voie de développement.
Il y a un autre livre ici qui évoque une relation entre un jeune enfant, Momo, et cette grand-maman qui sont opposés dans la vie. Lui, un jeune musulman, elle, une dame juive qui a vécu le camp de concentration. Puis c'est une rencontre choc entre le début de la vie, la fin de la vie et l'apprentissage de la vie. Alors pourquoi vous avez choisi La vie devant soi de Romain Gary?
Ah, c'est un très beau livre. C'est un livre qui parle d'espoir, qui même s'il n'est pas facile, nous amène de façon très très brutale dans notre actualité. Même si je pense que je vous avais envoyé ça avant même que la guerre n'éclate au Proche-Orient. Mais si tout le monde pouvait lire ce livre, peut-être qu'il n'y en aurait pas de guerre.
Dans une université comme la nôtre, est-ce que cet apprentissage-là se vit aussi à l'UQAM, ce rapprochement entre ce discours, cette liberté académique? Je vois dans mon message que vous l'encouragez, mais comment vous voyez cela?
Ah, nous sommes une communauté très, très diversifiée, très internationale aussi. Et vivre ensemble, ça veut dire s'apprivoiser. Et je trouve que nous le faisons régulièrement très bien. Il y a un apprentissage immense de l'autre, hein, du contact avec les autres. Et ce livre, qui était finalement le partage d'une maison, le partage d'un appartement entre deux personnes et plus, c'était une métaphore pour tout le reste.
sur les relations. J'aimerais vous entendre, et là, je m'adresse encore au lecteur en vous. J'ai le souvenir d'une chronique de Pierre Foglia du temps où la Grande Bibliothèque a été créée, où Pierre Foglia disait les institutions de lecture publique sont fondamentales, mais ça prend quelqu'un pour nous amener vers la lecture, nous plonger dans cet univers-là, nous amener à la bibliothèque ou dans les livres, etc. Et vous, dans votre parcours, est-ce que vous pouvez dire il y a quelqu'un qui vous a ouvert à l'univers des livres, du savoir, de la culture?
Je vous dirais plein de personnes, mais le tout premier, c'est probablement mon grand-père qui écrivait des livres, qui écrivait des pièces de théâtre aussi, et qui me les faisait lire avant même que je ne sache lire. C'était un privilège, en fait, d'être le lecteur de cet homme que j'aimais beaucoup. Il s'appelait Georges Nizet, il avait été prisonnier de guerre pendant 5 ans dans un camp en Pologne. J'avais un respect infini pour lui, qui c'était un conteur. Il était capable à 5 ou 6 ans, de nous maintenir assis pendant 3 heures dans un fauteuil inconfortable, simplement au son de sa voix. Donc c'était probablement le premier.
Donc vous êtes un conteur.
Ah, je ne sais pas si c'est génétique.
Sur le sujet du théâtre, quand on ouvre votre curriculum vitae, on lit que vous avez déjà fondé un théâtre. Ça ne jure pas avec le portrait qu'on peut avoir d'un économiste, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez fondé un théâtre et quel type d'œuvre y était présenté?
Alors, c'était très artisanal, on s'entend. J'avais 16 ans et nous étions secondaires en Belgique. J'écrivais des pièces de théâtre et des amis souhaitaient qu'on les joue. Alors nous avons fondé un théâtre qu'on a appelé le Théâtre de l'Aube, dans lequel on a joué trois pièces différentes à chacune des 3 années de la fin du secondaire. Et c'était des pièces que j'écrivais, que nous mettions en scène collectivement. Et nous faisions tout, hein, jusqu'au costume, au décor. La municipalité nous offrait gracieusement une très très belle salle de théâtre. Donc il y avait un côté un peu professionnel dans l'environnement, dans l'infrastructure, mais tout le reste était magnifiquement artisanal. Puis le public était là, ce qui était très 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 encourageant. Un public probablement d'amis, de membres de famille et d'étudiants de l'école secondaire, mais c'est important. Et donc oui, on a fait beaucoup de théâtre ces trois années-là.
Et est-ce que vous en ferez à nouveau?
J'aimerais.
Alors la faculté des arts, c'est important, Lucas?
Ah ben oui.
Ah oui? Alors quelle est votre vision?
Ben, c'est la plus grande faculté des arts au Canada. Hein, c'est la seule qui offre tout, y compris les arts vivants, le théâtre, la danse, la musique. C'est très rare d'avoir ces trois disciplines dans une université. Nous avons cette chance, qu'il faut encourager. Et oui, moi je pense qu'ils ont une place très très importante dans l'image et dans le vécu de l'UQAM. Donc nous voulions soutenir, vous parlez de la murale, hein?
Oui.
Nous voulions soutenir le projet de murale, donc nous avons été partenaires avec MU. Ça rejoint plusieurs préoccupations. D'abord, l'art. Moi, je vis avec des œuvres de Françoise Sullivan dans mon bureau. C'est un privilège. Mais que tout Montréal puisse vivre avec une œuvre de Françoise Sullivan, c'est formidable. Et en particulier dans le quartier où nous sommes, qui est un quartier qui a besoin d'amour et de couleurs. Je trouve que cette œuvre, elle s'intègre parfaitement dans les besoins de revitalisation du quartier.
On va aller vers les années 20. Donc, je vous amène vers Not Much Fun. Vous pouvez nous présenter cet ouvrage et pourquoi il est important pour vous?
Ah, Dorothy Parker. Dorothy Parker, c'est une poétesse américaine qui est pas très connue, mais qui a écrit des choses qui sont autant bouleversantes que cinglantes, que dérangeantes. Le recueil s'intitule Not Much Fun. Je pense que ça le dit. C'est quelqu'un qui a une vie très dure et qui n'a pas de langue de bois dans sa poésie, mais vraiment pas. Qui, moi, m'a toujours interpellé.
Alors, elle a publié, là, effectivement, ici, on a un recueil de poèmes non publiés, une œuvre particulière.
Je me suis permis d'en apporter une, mais qui est très dure, qui parle vraiment du plus profond des désespoirs et qui se termine par, finalement, vous allez voir, ça s'appelle « Résumé ». Je vais évidemment le lire en version originale. Razors pain you, rivers are damp, acids stain you, and drugs cause cramp. Guns aren't lawful, news is give, gas smells awful, you might as well live.
C'est très actuel.
Sans doute.
Vous nous avez présenté deux ouvrages de poésie, qui appartiennent à la tradition, on pourrait dire, de cet art-là, mais je serais curieux de savoir si vous fréquentez la poésie d'aujourd'hui, la poésie contemporaine.
J'ai beaucoup fréquenté les poètes belges quand j'étais dans ce pays. Je faisais partie d'un mouvement de jeunes auteurs qui sont devenus des auteurs accomplis. Donc, il y a par exemple un auteur que je vous invite à découvrir qui s'appelle Carol Logiste, dont nous avons certainement quelques œuvres à la bibliothèque. C'est, à mon avis, aujourd'hui le poète belge le plus original. Ici au Québec, moi, j'ai la chance de côtoyer Joséphine Bacon assez fréquemment. Oui. C'est une chance vraiment pour l'UQAM de l'avoir accueillie pendant une année en résidence, avec un titre qu'elle a elle-même choisi, aînée en résidence. Donc, je me suis permis dans mes voyages de toujours apporter un livre de Joséphine en cadeau à mes hôtes. Et dernièrement, j'en ai offert un à la déléguée générale du Québec à Paris et à notre ambassadeur du Canada.
Vous êtes diplomate aussi, donc vous êtes... Non, mais par votre fonction, mais de par aussi votre vaste culture, vos contacts avec les différentes communautés à travers le monde, ce côté diplomate, il est important pour vous.
Oui, oui, oui. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La diplomatie, c'est avant tout le dialogue. Je peux pas concevoir un travail de recteur qui soit exempt de diplomatie. Un recteur n'est jamais un patron. C'est tout au plus un chef d'orchestre qui travaille avec des solistes de très très grands talents. Qu'il essaye de convaincre de jouer ensemble. Et je trouve qu'on fait ça très bien à l'UQAM, jouer ensemble.
Alors là, Jean-Michel, moi, ça me pose la question par rapport à le livre de Michel Houellebecq, Soumission, qui est vraiment à l'opposé de ce que vous venez de dire. Alors pourquoi?
On ne s'attendait pas à ce livre-là dans la liste. Alors, un ouvrage sulfureux, un auteur clivant. Et là, qu'est-ce que M. le recteur peut bien dire de Michel Houellebecq et de soumission?
Ah, mais Houellebecq m'amuse. Houellebecq, il part dans tous les sens. Ce livre-là est un livre, je pense qu'il faut le lire parce qu'il peut nous apprendre quelque chose sur la facilité avec laquelle une société peut passer du statu quo à un retour au monde médiéval en l'espace d'une élection. C'est vraiment intéressant à lire. C'est très dérangeant aussi, hein, mais ça nous rappelle que tout est fragile, que la démocratie, ça tient à un fil et qu'on doit la défendre au quotidien. C'est vraiment important. Mais il est amusant, Houellebecq.
Alors, y compris dans une université, hein, parce que le protagoniste est professeur d'université.
Ah ben, bien sûr. Bien sûr. Là, vous avez une université qui soudainement décide, pas du jour au lendemain, mais assez rapidement, que les femmes ne peuvent plus être professeurs. Vous imaginez à quel point... Et la soumission, c'est que finalement, ça devient socialement acceptable. C'est abominable.
Et Houellebecq, c'est un auteur que vous avez beaucoup fréquenté ou vous vous êtes arrêté sur ce livre-là en particulier?
Non, j'en ai lu quelques-uns de Houellebecq. Je le trouve, comme je vous dis, très divertissant.
En effet.
Et comment faire le lien vers Camus avec Caligula à ce moment-là?
Alors, on est dans des auteurs, disons, consacrés. Et là, vous nous amenez dans l'œuvre d'Albert Camus.
Oui. J'ai déjà parlé du théâtre, mais c'est un peu cette époque où nous faisions du théâtre en Belgique. J'ai découvert Camus, j'ai découvert Sartre, j'ai découvert donc les pièces de théâtre un peu. Camus a jamais voulu qu'on dise qu'il était existentialiste, mais il faisait partie de ce mouvement. Et j'aurais pu vous donner une œuvre de Sartre comme Les Mouches, par exemple, qui certainement a eu la même influence sur moi que celle-ci. Caligula, c'est ce personnage qui est autant un poète qu'un monstre et qui a décidé qu'il fallait abandonner les hommes. Et l'abandon de la société, finalement, c'est son propre abandon parce que... Il met en place toutes les conditions pour se voir disparaître.
Sartre, Camus, Beauvoir, souvent ce sont des lectures qu'on fait au cégep, à l'université, associées, disons, à une jeunesse en rébellion, pourrait-on dire. Mm-hmm. Et je me demande, est-ce que ce sont des livres que vous avez lus dans cette période-là de votre vie? Est-ce que ce sont des livres que vous relisez? Est-ce que vous êtes un relecteur aussi, Monsieur Palache?
Ça m'arrive, mais vous avez raison. J'ai lu ces livres alors que j'étais adolescent, et c'était en fait au secondaire que nous les lisions. Donc oui, il m'arrive de relire des livres. J'ai pas relu Camus, je devrais. Hein. Je devrais.
Et là, on a beaucoup parlé de lecture littéraire, mais je serais curieux de savoir, disons, dans votre quotidien, vous dites que vous lisez beaucoup de rapports, mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité? Je suppose que oui, mais quel type de diète informationnelle, pourrait-on dire, consommez-vous au quotidien?
Alors, tous les matins, évidemment, je reçois la revue de presse de l'UQAM et je reçois aussi la revue de presse de l'UQ, qui n'est pas la même. C'est très intéressant, donc je passe au travers et souvent je lis les textes dans les différents journaux qui sont parfois internationaux. Donc on se promène, l'UQAM est présente à bien des endroits dans le monde chaque matin. Mais donc, je lis beaucoup, évidemment, sur la perception qu'a la société de l'UQAM. C'est très, très important pour moi de sentir l'influence que nous pouvons avoir en tant qu'université. Et je pense que depuis sa création, l'UQAM n'a jamais laissé personne indifférent et a toujours poussé la société plus loin.
Quand même, vous êtes passé de l'Université du Luxembourg comme recteur de 7000 étudiants à l'UQAM qui en compte environ 35000. C'est quand même une complexité autre que de faire rayonner l'UQAM comme ça, non? Avec une plus grosse organisation, une difficulté monétaire, des revenus qui ne sont pas nécessairement là.
C'est le même métier. C'est oui. Vraiment le même métier. Et je l'ai effectivement appris au Luxembourg, dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Hein. Je débarquais dans un pays que je connaissais très, très, très mal. Je ne l'avais pas vu, ce pays, depuis les années 80. Je ne connaissais pas les codes. Et contrairement à l'UQAM, je n'avais pas été élu. J'avais été nommé par un conseil d'administration, donc vous imaginez un recteur qui débarque, qui vient de Mars et à qui on doit soudainement faire confiance. La confiance, il a fallu que je la gagne. Et je l'ai gagnée une personne à la fois et ça a été vraiment très, très, très positif. J'ai pu faire énormément de choses et j'ai dû aussi m'insérer dans un monde politique que je ne connaissais pas, la politique du gouvernement du Luxembourg, mais aussi celle de l'Union européenne. Mm-hmm. C'est très formateur. Vraiment, j'ai adoré cette expérience. Alors, l'UQAM n'a pas les mêmes enjeux. Mais une université, c'est une université. Et les points communs entre l'Université du Luxembourg et l'UQAM sont très, très, très nombreux. Notamment la lutte constante pour la liberté académique, la lutte pour l'autonomie de l'université. Ça, c'est universel. Lorsque j'étais en Europe, la Hongrie a décidé de supprimer la liberté académique et l'autonomie universitaire. Je peux vous dire que ça veut dire c'est la fin des universités quand on fait ça. Ce sont deux valeurs absolument essentielles auxquelles on ne peut pas déroger en tant que société.
Et à l'Université du Luxembourg, corrigez-moi si je me trompe, mais ils ont instauré le principe de la gratuité scolaire, n'est-ce pas?
Ah oui.
Qu'est-ce que ça change, la gratuité scolaire?
Ben, c'est un beau modèle. Hein, c'est un modèle d'accessibilité presque totale. Nous avons à l'UQAM une mission d'accessibilité qui nous a été donnée par le gouvernement en 69. Très bien, et ça veut dire que nous avons aussi le devoir d'avoir des frais pour les étudiants les plus bas, ce qui est le cas. Mais nous ne sommes pas rendus à la gratuité.
Pas encore.
Parce que, mais sérieusement, on pourrait l'imaginer. Pour que ça marche, évidemment, pour que la gratuité permette aux étudiants d'avoir accès à une université excellente, il faut que la subvention gouvernementale remplace les frais de scolarité. Et au Luxembourg, c'était le cas. Si vous haussiez les frais de scolarité, la subvention diminuait d'autant. Parce que le gouvernement considérait que c'était extrêmement important de financer l'université de façon importante pour que les étudiants aient accès à cette excellence dans leur parcours universitaire.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un moment très agréable que nous avons passé ensemble. Merci de nous avoir partagé aussi ce côté inspirant de vos lectures, de votre parcours, qu'on voit qui a été parfois douloureux, difficile. Mais cette ouverture-là, c'est vraiment... on est reconnaissant finalement que vous soyez aussi, aussi transparent, aussi généreux avec nous dans vos partages. Alors, je ne sais pas, Michel, as-tu quelque chose à...
Simplement à merci.
Merci à vous deux. C'était vraiment, vraiment un plaisir.
« Le collimateur est un site de veille pédagogique de l'UQAM. Ont participé à cette conversation M. Stéphane Palage, recteur de l'UQAM, Jean-Michel Lapointe et Yves Mon, chargé de projet pédagonumérique au Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire. Musique libre de droit par John Prestone. Montage par Karl Aksinchak. Réalisation de Yves Mon. Retrouvez le collimateur sur le site collimateur.ucam.ca. Thank you.